BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans leur H. On va parler de budget, bien sûr. Notre invité est vice-président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, député Jean-Noël Barrot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Paraît-il que ça a chauffé en début de semaine à la réunion parlementaire. Vous nous direz pourquoi, comment. Et effectivement, vous trouvez qu'il y a un petit peu de buzz sur la ligne du gouvernement avec sa majorité. Ensuite, on parlera d'Audi. D'Audi, le patron France sera avec nous, Lawari Benaoum. On fera un bilan du salon de Francfort. Pas terrible. On verra aussi, bien sûr, ce qui se passe autour du Dieselgate. Et puis, on reviendra sur la voiture électrique, secteur sur lequel Audi France est évidemment très en pointe. Et puis après, c'est l'ancien patron de France Télévisions, Patrice Duhamel, qui sera avec nous, avec le réalisateur Jacques Santamaria. Il publie La République abîmée. En fait, ce sont toutes les grandes affaires. Ils reviennent sur toutes les grandes affaires qui ont abîmé cette République. C'est intéressant. Et puis, bien sûr, on reviendra sur la réforme de l'audiovisuel public avec ces deux géants de ce secteur. Mais pour l'instant, place à l'actu avec Thomas Asportas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. L'actualité, bien sûr, vous le disiez Edwige, c'est le budget, hein, édition spéciale. Ce soir, à partir de 22h sur nos antennes sur BFM Business, dès la publication du projet de loi de finances 2020, on connaît déjà la philosophie de ce budget avec de nombreuses mesures pour le pouvoir d'achat des ménages. Au total, 9,3 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages en 2020. Le PLF prévoit pour l'année prochaine 1,3% de croissance et un déficit un peu supérieur aux premiers objectifs de Bercy à 2,2% du PIB. Et puis c'est aussi la journée des retraites aujourd'hui, hein, puisqu'Emmanuel Macron inaugure ce soir à Rodez une nouvelle série de réunions publiques sur le format du grand débat, avec cette fois-ci donc une discussion exclusivement centrée sur les retraites. Le chef de l'État, avec à ses côtés Jean-Paul Delevoye, sera face à 500 Français et aux grandes questions que soulève la réforme. La fin des régimes spéciaux, l'âge de départ ou encore la durée de cotisation. Sur le front des tensions commerciales, la Chine serait-elle en train de jouer le jeu des achats de produits agricoles américains? Un sujet, vous le savez, très important pour Donald Trump. Et bien la Chine affirme en tout cas ce matin que ses entreprises ont acheté récemment des quantités considérables de porc et de soja. La Chine et les États-Unis doivent reprendre leurs négociations la semaine du 7 octobre. Et Donald Trump déclarait hier qu'un accord pourrait être conclu plus tôt qu'on ne le pense. Dans l'actualité des entreprises, et c'est une information que vous apporte BFM Business depuis ce matin, EDF persiste et signe avec ses EPR. L'énergéticien a lancé il y a quelques jours un appel d'offres pour la construction de deux nouveaux EPR en France. EDF justifie cette démarche pour compenser la fermeture à venir de certaines centrales nucléaires, mais le timing interroge malgré tout avec les difficultés, bien sûr, qu'on connaît à Flamanville et celles annoncées hier à Hinkley Point. On apprend également qu'Airbus a été ces derniers mois la cible d'une série de cyberattaques. 4 attaques majeures ont visé le groupe au cours des 12 derniers mois. Ces attaques viendraient de Chine et auraient visé des sous-traitants de l'entreprise, notamment le motoriste Rolls-Royce, pour ensuite pouvoir atteindre Airbus. Et puis toujours dans le secteur aérien, IAG, la maison mère, notamment de British Airways, lance aujourd'hui un avertissement sur ses résultats. Le bénéfice d'exploitation sera inférieur de 215 millions d'euros aux résultats prévus. IAG met notamment en avant l'impact des dernières grèves des pilotes de British Airways qui ont coûté 137 millions d'euros à la compagnie. La banque hollandaise ABN AMRO, la troisième banque du pays, annonce qu'elle fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la nouvelle loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. ABN AMRO est soupçonnée, je cite, de ne pas avoir signalé des transactions irrégulières ou de ne pas les avoir signalées à temps. Les autorités avaient déjà demandé en août à la banque de réexaminer l'ensemble de ses 5 millions de clients particuliers aux Pays-Bas. Et puis pour finir, un mot pour vous dire que le feu qui s'est déclaré cette nuit à l'usine Lubrizol de Rouen a été circonscrit, mais qu'il n'est pas encore éteint. Les pompiers veulent maintenant éviter un risque de suraccident puisque les installations intérieures n'ont pas été touchées. Les autorités ajoutent par ailleurs qu'il y a un risque de pollution de la Seine. BFM Business, il est midi 3. On file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 progresse. On gagne 0,69% à 5 622 points. L'euro dollar, quant à lui, cède un peu de terrain. On abandonne 0,17%. 1 euro s'échange pour 1,9033 $.
Merci Thomas. Et on apprend à l'instant que Jacques Chirac, l'ancien président de la République, est mort. On y reviendra évidemment, notamment avec mon invité Jean-Noël Barrot. Mais vous y reviendrez à 12h30 lors du rappel des titres. Merci Thomas. Tout de suite, la question du jour. La question du jour, elle est sur le budget. Le budget, un pouvoir d'achat, mais pourquoi faire? Est-ce qu'il n'y a pas des doutes, notamment sur la véracité de ce budget? On voit ça tout de suite.
BFM Business, l'heure H. La question du jour.
Jean-Noël Barrot, bonjour, rebonjour, merci d'être avec nous. On va rappeler, vous êtes député MoDem des Yvelines, vous êtes vice-président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. On sait que ça a chauffé dans les bronches entre le gouvernement et votre majorité. On va revenir là-dessus, mais d'abord cette information très importante. On vient d'apprendre la mort de Jacques Chirac qui s'est éteint. Votre père, Jacques Barrot, connaissait très bien Jacques Chirac. C'était un compagnon de route de l'ancien président de la République. Un souvenir peut-être?
Oui, d'abord dire que j'apprends cette nouvelle à l'instant avec une certaine émotion et une certaine tristesse, bien sûr. Jacques Chirac, qui nous a toutes et tous marqués par des prises de position courageuses quand il a porté une parole libre pour la France. On se souvient de son appel pour la protection de la planète ou encore de sa résistance à la guerre en Irak. Et de cette manière-là, il a montré que la France pouvait porter une parole indépendante. Puis on se souvient aussi de sa très grande humanité et de sa considération pour chacune et chacun, ce qui fait que parmi ses compagnons de route, dont mon père a fait partie, il y avait des personnes qui avaient été parfois des adversaires politiques, mais qui lui ont gardé une très forte fidélité. Et puis peut-être un souvenir personnel qui est sa visite en 2004 avec Simone Veil au Chambon-sur-Lignon, qui est un village qui a résisté pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'est illustré par la dissimulation d'enfants juifs. Ça avait été un moment très fort et il avait à cette occasion, là aussi, porté une parole très forte qui avait marqué les esprits et les cœurs.
Oui, vous avez eu l'occasion de le rencontrer, presque dans une forme d'intimité familiale ou pas ?
Ça m'est arrivé, mais j'étais encore un petit peu jeune pour avoir
une discussion
approfondie avec lui.
Merci en tous les cas de ce témoignage, Jean-Noël Barrot. L'actualité aussi, bien sûr, c'est le budget 2020. On en connaîtra les modalités précises, c'est important, les contours précis ce soir, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine avec cet aller-retour, on va dire, pour rester poli, sur la question des seniors? Est-ce que la majorité a fait entendre sa voix? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu là aussi.
Oui, la majorité a fait entendre sa voix et c'est normal puisque que le budget est présenté par le gouvernement, mais il est discuté et voté par le Parlement. On a eu cette mesure d'économie, qui est une petite mesure, qui a été très fortement contestée dans sa construction par les parlementaires de la majorité.
Vous l'avez appris quand, vous? Vous êtes député, vice-président, encore une fois, de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Quand est-ce que vous avez appris ça?
On l'a appris
par les Échos lundi matin.
Mais vous savez qu'un budget...
Par les Échos lundi matin ou pas?
On l'a appris...
Par la presse.
Ouais. Le budget, c'est un texte qui se construit à partir du début de l'année, au mois de janvier, et qui est un travail d'abord collectif au sein du gouvernement et qui associe en partie les parlementaires. Et donc, il est pas surprenant qu'il y ait des ajustements jusqu'à la dernière minute. Là, on parle d'un montant de 100 à 300 millions d'euros qui n'est pas une grande masse du budget. Mmh. Une mesure qui a été proposée, ou en tout cas qui va figurer d'ailleurs dans le texte, mais qui sera supprimée puisqu'il y a eu une opposition unanime de la majorité.
Mais je crois qu'il faut... Mais est-ce que vous comprenez puisse... Parce que nous, Français, nous, on ne comprend pas.
Si.
C'est-à-dire que...
Alors,
non, on ne comprend pas.
Sûr,
on comprend
on
pas.
On sait.
On sait
très bien qu'il y a dans les incitations fiscales au service à la personne un certain nombre d'anomalies. Mmh. On sait par exemple que certains services de confort, presque de luxe, peuvent ouvrir droit à des crédits d'impôt, y compris à des personnes qui n'en ont pas besoin. La réalité, c'est que quand il y a eu des tentatives pour supprimer un certain nombre de ces crédits d'impôt, ça s'est heurté au principe selon lequel, quand on réduit ces crédits d'impôt, il y a une partie du travail qui bascule dans le travail au noir. Donc, ce débat, on l'a déjà eu, d'ailleurs, en partie l'année dernière,
on l'avait refait. Non, mais attendez, on fait aussi un peu de politique, même si ici, on est
exactement.
Les premiers.
Non, mais,
on est les premiers ici à dire qu'il faut faire des économies.
200
millions, je veux dire.
Que oui. Le sujet était clos. Et je crois qu'il faut se recentrer sur les sujets d'importance. Vous avez dit que c'était le budget du pouvoir d'achat. On peut même dire que c'est le budget du grand débat, puisqu'on a une baisse d'impôts qui est historique.
Oui.
5 milliards pour l'impôt sur le revenu, ça fait 300 euros en moyenne pour 17 millions de foyers. Mmh. La fin définitive de la taxe d'habitation pour 80% des familles et des ménages de France, c'est 720 euros en moyenne pour 24 millions de Français. Donc là, on est vraiment dans des masses significatives, historiques, et je crois que c'est vraiment ça qui domine dans
vous voyez bien que vous ouvrez comme nous à la presse, regardez les commentaires, regardez les réseaux sociaux, Jean-Noël Barrot, vous voyez bien que c'est pas ce que pour l'instant retiennent les Français, mais y compris les chefs d'entreprise. Ce matin, je recevais le président délégué du MEDEF qui dit ce budget 2020 fait un peu... On est vraiment très inquiet pour les entreprises. Du reste, j'ai des questions assez précises à vous poser là-dessus.
Non, donc, pour les entreprises aussi, les baisses d'impôts sont assez...
On va revenir sur les entreprises, comment c'est arrivé, comment c'est possible. Voilà.
Ce qui est arrivé, c'est que dans le bouclage général du budget, étant donné l'effort considérable qui est fait pour réduire les impôts des Français et des entreprises, le corollaire, la contrepartie, c'est d'essayer de supprimer un certain nombre de dispositifs qui, ou de niches, de dépenses fiscales qui sont peut-être datées ou inefficaces.
Et pourquoi pas le faire sur des économies sur la dépense publique ?
Alors, on en fait, des économies sur la dépense publique, mais ça n'empêche pas qu'il faut, quand on baisse les impôts, supprimer un certain nombre de niches fiscales qui ont été mises en place au fil du temps parce que la pression fiscale était forte. Donc, le Premier ministre l'a rappelé hier, on baisse les impôts de manière historique, on va aussi supprimer un certain nombre de niches fiscales, et c'est dans cet esprit-là que la proposition a été faite, mais aussitôt faite, aussitôt retirée, et c'est une bonne chose.
Ouais, c'est Muriel Pénicaud qui l'a voulu, qui l'a poussé ou pas ?
Je crois que c'est le gouvernement qui a souhaité.
Ah non, pas le gouvernement dans son ensemble. Je veux dire, du côté de Bercy, il y avait déjà des couacs. Donc,
Les ministres,
Jean-Noël Barrot, là, vous nous faites de la langue de bois.
Les ministres sont solidaires entre eux. Et je crois que dans l'architecture globale, il était important qu'un certain nombre de niches puissent être supprimées pour compenser très partiellement les baisses d'impôts significatives et rester dans la bonne épure en matière de déficit public, puisqu'on atteint 2,2% de déficit en 2020. C'est la première fois depuis 2001 qu'on est. Donc on a un déficit public aussi faible, mais il fallait pas aller plus loin.
C'est pas dans la ligne qui a été souhaitée par Emmanuel Macron. On a le sentiment
quand on baisse les impôts de manière historique, et je crois que personne ne s'opposera aux mesures qui vont être proposées en matière d'impôt sur le revenu, en matière de taxes d'habitation, il est naturel que la baisse des déficits soit un peu plus faible. Mais ce que je constate, c'est que 2,2% de déficit, c'est le déficit le plus faible depuis 2001.
Oui, mais vous constatez aussi que c'est pas ce que nous avait indiqué la projection justement qui avait été fixée au début du quinquennat, la trajectoire des finances publiques.
Non, c'est vrai, mais il faut tenir compte de l'expression qui a été celle des Françaises et des Français pendant le grand débat et assumer que cette baisse d'impôts ralentisse la trajectoire de diminution du déficit.
Toute dernière question précise un peu, mais qui est très importante sur la fin de l'exonération, la limitation du moins pour les micro-entrepreneurs. Est-ce que ça va passer, pas passer ou pas ? Parce qu'on sait que Bruno Le Maire est vent debout contre ça, c'est un peu contraire à l'esprit de sa loi Pacte. Du reste, c'est un succès fou. Hein. Est-ce que c'est le moment, justement, de retaxer
C'est aussi une mesure qui arrive un peu sur le tard. Mm-hmm. Donc, on va avoir ce débat. Je ne suis pas certain de l'atterrissage de cette mesure. On sait qu'il y a des différences de traitement selon les statuts qu'il faut arriver à terme à gommer, parce que ça crée aussi de l'exaspération chez certains professionnels.
Ouais.
Ceci étant dit, est-ce que cette mesure-là est pertinente ? Est-ce qu'elle corrige vraiment des effets d'aubaine ou des effets pervers ? Il faudra qu'on le regarde dans le détail.
Et ça va... Vous êtes favorable, vous, à quoi ? Vous êtes favorable en quoi ?
Moi, je suis favorable à ce qu'on regarde toutes les formes d'effets d'aubaine qui polluent notre système fiscal. Et donc, je suis prêt à en discuter, mais encore heureux qu'on puisse avoir ce débat parlementaire. À nouveau, le budget qui est présenté a vocation à être discuté, amendé, enrichi au Parlement. Et donc, ça fait partie des points de discussion qu'on aura.
Oui, mais du reste, ce qui allait dans votre sens, Jean-Noël Barrot, c'est ce matin donc Patrick Martin du MEDEF qui disait qu'il y a quand même des abus qui sont faits, notamment vis-à-vis des artisans, vis-à-vis de la Fédération du bâtiment. Donc il faut peut-être regarder de plus près avant de revenir complètement sur cette mesure. On a un peu le sentiment quand même que l'acte 2 consiste, j'ai envie de dire justement, puisque donc on vient d'apprendre la mort de Jacques Chirac, à faire un peu du Chirac. Du Chirac 3, quoi. Le Macron 2, c'est du Chirac 3, dans le sens où on n'avance plus beaucoup sur les réformes et des réformes structurantes.
Je crois que sur les réformes, quand on commence aujourd'hui la concertation nationale sur la réforme de retraite, on montre quand même une réelle ambition. Quand on discute...
Mais même elle, vous voyez bien qu'elle s'est repoussée. Il y a le débat qui commence aujourd'hui avec le président Emmanuel Macron qui est à Rodez. Mais on voit bien que c'est repoussé quand même un peu au calendre grec.
Non, je ne crois pas que le train des réformes va s'arrêter parce qu'il y a encore beaucoup à faire et que le président de la République y tient beaucoup. Et sur la question des retraites, je pense qu'on arrivera évidemment au bout de ce chemin-là. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on poursuive le travail sur la baisse des dépenses publiques et notamment des baisses des dépenses publiques inefficaces. Cette année, dans le budget, par exemple, fruit du travail qui a été mené depuis le début du quinquennat, la contemporanéisation des APL, c'est-à-dire le fait que désormais on percevra les APL en fonction du revenu qu'on a perçu l'année N, va permettre de réaliser une économie substantielle. C'était l'objectif au départ. Ouais. Parce qu'il y a des frais de gestion, des coûts de gestion des appels qui seront moindres, de trop percés, de trop perçus, et, etc. Et puis aussi parce que les revenus augmentant, ça va permettre de faire une économie.
Est-ce que
il y a
vous avez...
tout un tas de dépenses fiscales également qui vont être revues. Le crédit impôt transition écologique va être recentré sur ceux qui en ont le plus besoin.
Oui, enfin, au moment où on veut que la rénovation énergétique s'accélère en France, est-ce que c'est vraiment le moment de changer les règles du jeu?
Il faut s'assurer
que pour les professionnels,
le dispositif
c'est une...
est bien incitatif. Que les professionnels ne soient pas totalement favorables à la mesure, je le comprends. Ouais. Mais nous, notre objectif, c'est que chaque euro d'argent public investi atteigne bien son objectif. Et pour la rénovation énergétique, il faut que ce soit le cas.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on... Ça y est, on est un peu parti dans l'élection présidentielle, la prochaine élection présidentielle. Donc là, on ne fait pas de vagues?
Non, je crois qu'on essaye de continuer d'être imaginatif et créatif. On baisse les impôts, on baisse un peu les dépenses, mais on augmente aussi les recettes. C'est très intéressant de voir que les efforts qu'on a commencé à mettre en œuvre avec Gérald Darmanin sur la lutte contre la fraude vont commencer à produire des effets. Au budget de l'année prochaine, au budget pour l'année prochaine, 2 milliards d'euros de plus que ce qu'on aurait pu attendre de la lutte contre la fraude. On va aussi avoir en 2020, et c'est pas budgété, des amendes comme l'amende du BS par exemple de 4 milliards d'euros qui vont sans doute être constatées. Et puis Gérald Darmanin est venu avec Cédric O annoncer à Vélizy dans ma circonscription une batterie de mesures contre la fraude à la TVA sur les plateformes qui elles aussi, même si elles sont pas encore totalement budgétées, vont à terme permettre de résorber un tout petit peu de l'évasion à la TVA qu'on pouvait constater.
Encore une fois le MEDEF, mais ça vous concerne directement. Le MEDEF dénonce le fait qu'il y a une augmentation des taxes de à peu près les chiffres l'ensemble à 1 milliard d'euros, voire un peu plus. Et notamment parce qu'il y a une hausse en Île-de-France, dans certaines régions localisées, de la taxe immobilière sur les bureaux. Ça, pour financer le Grand Paris, mais pas seulement. Et donc ça fait à peu près 100 millions d'euros. Est-ce que c'est le moment d'augmenter les taxes immobilières sur les bureaux au moment où on veut faire venir des entreprises à cause du Brexit? Est-ce que c'est... Là aussi, ce n'est pas un discours contradictoire.
Sur le financement du Grand Paris Express, effectivement, il y a une sollicitation qui est faite sur les locaux ou les immobiliers de l'immobilier de bureau. C'est un sujet qu'on discute chaque année. Je comprends qu'il y a une inquiétude là-dessus. Après, sur l'attractivité de la place de Paris vis-à-vis des Brexit, on a mis en place avec la loi Pacte et avec les projets de loi de finances précédents des mesures extrêmement favorables. Donc,
mais vous confirmez donc qu'il y a bien une hausse de combien? 10%?
Je ne l'ai pas en tête, mais je sais que c'est une taxe qui est un impôt de production en réalité, que les entreprises déplorent. Oui. En revanche, on continue de baisser l'impôt sur les sociétés avec, à l'horizon 2022, la convergence d'être 25% d'impôt sur les sociétés contre 33% au début du quinquennat, qui là ne peut qu'être salué par les entreprises. J'ajoute à ça.
Oui. Et encore, par les grandes entreprises, vous voyez bien que la trajectoire, elle est un peu décalée.
Décalée. J'ajoute que dès la semaine prochaine, vont entrer en vigueur les allègements renforcés, donc les allègements de cotisations que payent les entreprises et qui vont être supprimés et qui vont leur permettre là aussi d'être sans doute encore plus dynamiques.
Eh bien, on voit que vous avez encore du pain sur la planche. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Merci de votre témoignage. Jean-Noël Barrot sur la mort de Jacques Chirac, donc on a appris il y a quelques minutes maintenant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans un instant, je recevrai Lawari Benaoum, il est patron d'Audi France. On viendra sur les voitures électriques, on verra sur l'industrie allemande qui visiblement rentre un peu dans la tourmente. À tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Lawari Benaoum, qui est le patron d'Audi France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a plein de questions. Bien sûr, le procès du Dieselgate, comment ça se passe. Il y a l'industrie allemande, quand même, qui... on voit bien que ça commence un peu à patiner. L'industrie allemande qui est pénalisée, notamment par les tensions commerciales avec les États-Unis. Et puis, il y a la voiture électrique, enfin, la transformation complètement de votre modèle. D'abord, une question... En mois d'août, on avait vu les chiffres sur le marché européen. Ils n'étaient pas très bons, c'était un peu en trompe-l'œil à cause de changements de normes, on ne va pas revenir là-dessus. Pas terrible non plus pour Audi, mais pour l'ensemble des constructeurs. Sur le mois de septembre, ça va tomber dans quelques jours. Est-ce que vous avez déjà une indication?
Sur le mois de septembre, on sera, je pense, dans la trajectoire de ce qu'on a connu sur les premiers mois. Donc c'est plutôt un marché en France automobile qui est plutôt stable, moins. Donc effectivement, il était plutôt plus dynamique en début d'année. Et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'attentisme de clients sur quelle taxe on aura l'année prochaine, notamment beaucoup de questions dans le cadre des sociétés. Et je pense que la loi de finances qui va arriver prochainement sur les différentes taxes qu'on aura en 2020 vont éclairer et vont ouvrir peut-être des possibilités sur le marché.
Oui.
Le marché de l'automobile se porte pas mal non plus. Hein.
Mais c'est difficile. On a vu le salon de Francfort, important pour vous, parce que vous êtes français. Tiens, du reste, je signale à nos auditeurs, aux spectateurs, vous avez été 4 ans en Chine, en l'occurrence pour PSA, Peugeot Citroën. Donc vous connaissez bien aussi l'industrie française de l'intérieur. Salon de Francfort, ça n'a pas été terrible, pas un grand succès.
Oui, alors c'est un très bon sujet, le salon de Francfort, parce qu'en fait, le salon de Francfort, comme l'industrie automobile, doit se poser aussi les bonnes questions, il doit aussi se changer, doit être en pleine transformation. Et c'est vrai que quand on parle d'électromobilité, en tout cas sur la marque Audi, c'est le cas, on veut vraiment s'inscrire dans cette démarche-là. Il faut vraiment se remettre en cause, et la remise en cause chez Audi, elle existe, puisque notre objectif, c'est d'arriver à des véhicules complètement décarbonisés à horizon 2050. Mm-hmm. Quand je dis complètement décarbonisé, ça peut être de l'électrique, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être de l'hybridation. Et je dirais que il y a aussi l'enjeu du digital, mais il y a aussi les salons qui doivent aussi
annoncez grosso modo un peu la fin des grandes messes. Ce sont le salon de Francfort comme le salon de Paris.
C'est les organisateurs qui doivent se poser des questions là, mais je pense que c'est révélateur et effectivement, les salons doivent aussi s'adapter à une nouvelle donne, à une nouvelle façon de s'exprimer et de montrer l'automobile et surtout la mobilité, puisque nous on souhaite surtout passer d'un univers de j'ai un véhicule à plutôt à un usage et de la mobilité durable. C'est ça qui est important sur les prochaines années.
J'ai une question un peu bête et méchante, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer une telle mutation dans un environnement aussi compliqué? Je parle évidemment de l'environnement automobile, surtout allemand, comme on l'a dit il y a encore quelques instants.
Je crois que l'industrie automobile a des défis qu'elle n'a jamais eu depuis un siècle. Comment on fait? D'abord, on commence déjà à se mettre sur des dispositions de véhicules à peu d'émissions de CO2, déjà dès maintenant. Par exemple, on est en train de lancer e-tron. Je vous donne un titre d'exemple.
Votre voiture électrique,
À 100% véhicule électrique. Mais c'est 100% véhicule électrique, mais c'est aussi l'usine qu'il a construite à Bruxelles qui est à zéro émission de CO2.
Mais paraît-il, justement, donc ça se veut e-tron, puisque vous en parlez, on va y aller tout de suite, en l'occurrence. Ça se veut le concurrent de Tesla. Donc Audi peut être tout à fait au niveau de Tesla. On dit qu'il y a un petit peu des problèmes de production, en l'occurrence, de l'e-tron. Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que vous faites? Ou est-ce que la demande est importante?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui un constructeur automobile qui est leader dans l'électrique, qui fait que l'électrique. Nous, chez Audi, on a 12 véhicules qui vont être 100% électriques à horizon de 2025. Donc c'est vraiment un investissement énorme. Vous parlez des enjeux. Comment est-ce qu'on répond à ces enjeux? C'est des investissements qui se comptent en dizaines de milliards d'euros pour pouvoir proposer une offre alternative à nos clients. Et c'est vrai que cette offre alternative, elle passe aussi par des technologies, par exemple d'hybridation, qu'on va aussi offrir sur l'ensemble de la gamme. Et l'enjeu et le défi, ça va être bien évidemment à la fois de commercialiser des véhicules.
Oui, mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est possible? Puisque je vous dis, on parle déjà un petit peu de difficultés de production. Est-ce que c'est vrai?
Non, il n'y a pas de problème de production,
de
délivrer des véhicules. Si demain, d'accord, vous voulez acheter un véhicule 100% électrique, on est en mesure de vous le fournir. On n'a pas de problème de production. Le vrai enjeu pour nous, ça va être d'offrir une gamme beaucoup plus large que l'on a aujourd'hui. Que ce soit dans la mobilité courte, moyenne ou très très courte, et d'offrir plus de l'usage que de la possession et en respectant l'environnement. Donc c'est ça l'enjeu et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais il n'y a pas de problème de production.
Non, je ne sais pas, parce que c'est ce qu'on dit, parce qu'en l'occurrence c'est vrai que ça veut dire qu'il y a une demande, mais que du coup ça coince un peu pour délivrer. Donc vous nous dites que non, donc dont acte. Volkswagen, puisque Audi appartient à Volkswagen, se lance aussi beaucoup dans l'électrique avec une marque ID. On a l'impression que chacun a un peu son rôle au sein du groupe Volkswagen. Quel est le rôle d'Audi? D'Audi, c'est la mission qu'on vous a, c'est de concurrencer Audi, Tesla, c'est quoi?
Audi au sein du groupe, d'abord, Audi, c'est une marque premium.
Oui.
Et c'est une marque avec l'ADN d'Audi, c'est la technologie. Le Forsprung d'Urge Technique, c'est l'avance par la technologie. Donc c'est toujours casser le statu quo et c'est avoir toujours la technologie la plus avancée dans le secteur automobile. Ça peut être dans l'électromobilité, ça peut être dans le digital, ça peut être aussi dans l'autonomie des véhicules. Et on souhaite préserver cette avance technologique. D'ailleurs, on est l'une des marques les plus désirables en France. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose. On a envie d'aller dans cette marque-là. Et tout notre enjeu, ça va être bien évidemment de transformer cette marque pour qu'elle soit bien évidemment beaucoup plus en lien avec les demandes des clients d'aujourd'hui et de demain.
Vous, Audi adapte ses modèles sportifs au diesel. Je croyais que le diesel c'était mort et donc on n'en parlait plus. Surtout vous.
Non mais raison de plus, c'est pour ça que je voudrais vraiment préciser quelque chose aujourd'hui, c'est que il faut pas focaliser sur une motorisation précise. Mm-hmm. Je pense qu'il faut au contraire ouvrir un champ des possibles à la fois, parce que quand vous êtes un grand rouleur, on voit par exemple des entreprises qui reviennent avec des véhicules en disant j'ai pris un hybride essence et ça ne va pas parce que je suis un très gros rouleur. Donc il y a chez Audi par exemple sur un véhicule qui s'appelle l'Audi A4 qui est dans le milieu du segment, on a des véhicules diesel qui font 163 chevaux qui sont à 94 grammes parce qu'il y a une hybridation aussi. Donc oui, on regarde le diesel, on a de l'essence et puis on aura d'autres motorisations. Et je pense que
ma question, c'est que vous connaissez mieux que moi, Laouri Benahou, que les diesels, il y a certaines villes, notamment Paris, qui veulent exclure le diesel. Je pense que c'est la même chose aussi en Allemagne. Mais comme vous dites, les Français, les Allemands, il y a encore une appétence pour le diesel.
Il y a encore une appétence pour le diesel. Il y a encore des usages qui fonctionnent bien parce que quand vous êtes grand rouleur, vous allez plutôt opter pour ce type de motorisation. On maintiendra encore cette offre-là. Ensuite, on verra ce que les villes décident, etc. Mais je pense qu'il faut.
Vous continuez à produire des voitures diesel.
On continuera à produire des voitures diesel, mais gardez bien en tête que l'objectif, c'est de passer à 100% de véhicules décarbonisés. Donc, à un moment donné, avec les technologies qui vont arriver, on aura un zéro émission de CO2 sur l'ensemble de la gamme. Et c'est ça le challenge d'Audi.
Un mot sur le Dieselgate, le procès s'est ouvert, là. Compliqué pour vous quand on est...
Aujourd'hui, le procès qui s'ouvre en Allemagne suit son cours. Moi, je ne veux pas m'exprimer sur un procès. Nous, ce que je peux vous dire, c'est que on a toujours contribué à répondre à toutes les questions. Et on est vraiment, pour ce qui me concerne en tout cas en France, on est en train de construire plutôt l'avenir sur le changement, justement, qui vient de l'intérieur de la société et qui, je l'espère, se verra aussi à l'extérieur auprès de nos clients.
Merci beaucoup. Juste la voiture que vous vendez le plus en France, c'est laquelle ?
Aujourd'hui, c'est le Q3. Le Q3 qui est un excellent succès. Bientôt, un Q3 coupé qui va arriver.
Qui va décoiffer. Prochainement. Merci beaucoup. Laouri Benahoun, donc le patron d'Audi en France, était notre invité dans un instant. C'est l'ancien patron de France Télévisions, Patrice Duhamel, qui sera avec nous, avec le réalisateur Jacques Santamaria. Mais bien sûr, on va revenir sur cette information. Donc, le décès de Jacques Chirac.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Il est 12h30, vous écoutez BFM Business. On revient bien sûr sur la mort de Jacques Chirac ce matin. On y reviendra dans un instant avec mes invités, Patrice Duhamel et Jean Santamaria, qui connaissaient très très bien Jacques Chirac, qui l'ont interviewé et rencontré à multiples reprises. Mais maintenant, je vous propose d'écouter Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, qui connaissait bien aussi Jacques Chirac. Laurence Parisot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Jacques Chirac et un peu qu'est-ce que vous allez retenir de lui ?
La première fois que j'ai vu Jacques Chirac, j'étais encore étudiante à Sciences Po. Il était venu faire une conférence et j'ai été d'emblée tout à fait marquée par le charisme de l'homme. Ensuite, j'ai eu maintes fois l'occasion de le voir, puis d'avoir une relation assez proche avec lui en tant que présidente de l'IFOP. Et évidemment, il s'intéressait très vivement aux évolutions de l'opinion. Et puis, enfin, je l'ai vu en tant que présidente du MEDEF et on a eu l'occasion de travailler ensemble de manière très pratique à cette époque-là.
Ah, Laurence Parisot, je m'adresse presque cette fois-ci effectivement à l'ancienne patronne de l'IFOP. Qu'est-ce qui faisait ce lien si particulier entre Jacques Chirac et les Français ?
Eh bien, il y avait une humanité évidente qui s'imposait quand on rencontrait Jacques Chirac. On voyait dans son regard, dans son attitude, qu'il s'intéressait à la personne qui était en face de lui, aux personnes qui étaient en face de lui, avec sincérité, avec curiosité, mais une curiosité saine, évidemment. Et il y avait aussi des réflexes, des phrases, des expressions qu'il montrait qu'il était comme tout un chacun, comme le français de la France profonde. Mmh. Donc c'était assez facile de créer un lien avec lui. Ce n'était pas les narques qu'on voyait quand on regardait Jacques Chirac.
Ça, c'est sûr. On voit des images pendant que vous nous parlez et c'est sûr qu'on voit bien que Jacques Chirac était plutôt quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait les Français. Merci beaucoup, Laurence Parisot, d'avoir été avec nous. Donc, l'ancienne présidente du MEDEF et l'ancienne présidente de l'IFOP. Delphine You, vous êtes avec nous. Jacques Chirac, une carrière incroyable. Oui, la Cinquième République, même.
Une carrière menée tambour battant qui avait démarré, souvenez-vous, aux côtés de Georges Pompidou au tout début des années 70. Georges Pompidou qui était donc Premier ministre à l'époque. L'ascension, elle est fulgurante. Le jeune Hénard, qu'on vient de le rappeler, va enchaîner donc les postes ministériels pour arriver en 1974, donc Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, avant de quitter Matignon avec fracas. On s'en souvient, sa déclaration sur « je n'ai pas les moyens ». Donc d'assumer ma fonction. Quelques mois plus tard, il va créer donc le RPR, un véritable machine de guerre au service de ses ambitions. La première étape de cette course au pouvoir, c'est bien sûr la mairie de Paris, remportée en 1977. Point de départ donc vers l'Élysée. 1981, première candidature, premier échec. Cinq ans plus tard, néanmoins, la droite remporte les législatives. C'est le retour à Matignon. Et le début de deux ans de cohabitation avec François Mitterrand. 1988, nouvelle candidature, nouvel échec, toujours face à François Mitterrand, mais la troisième tentative, elle, sera la bonne. Il sera donc élu en 95 face à Lionel Jospin. Mais la colère gronde, les grèves paralysent le pays. Et là, il va faire sa plus grosse erreur politique.
Avec Dominique de Villepin, bien sûr.
La dissolution de l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, eh bien, c'est avec Lionel Jospin qu'il va devoir cohabiter. 2002, on s'en souvient, séisme politique. La gauche est éliminée. Jacques Chirac affronte Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Il est plébiscité par les Français.
Il remporte 82%
des voix. Mais l'homme, lui, est déjà affaibli. Les affaires pourrissent la vie politique. L'ancien bulldozer est usé par le pouvoir. Et en septembre 2005, il est hospitalisé au Val-de-Grâce, officiellement pour un coup de fatigue. On apprendra donc quelques jours après que s'il s'agissait en fait d'un AVC. L'homme va se faire de plus en plus discret. Il quitte l'Élysée. Et donc,
il va habiter rue Tournon, justement. Il est mort.
26 ans.
Oui, ce matin. Merci beaucoup, Delphine You, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on y revient largement avec mes deux invités, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, deux grands témoins de cette période.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Nos invités, c'est l'ancien patron de France Télévisions, Patrice Duhamel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, le réalisateur Jacques Santamaria. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu pour nous parler de La République abîmée, un livre que vous publiez où vous revenez sur toutes les grandes affaires, en l'occurrence, qui a marqué la Ve République et qui ont eu un impact sur notre démocratie, la démocratie qui est abîmée. Il y a évidemment des affaires qui ont eu lieu pendant la présidence de Jacques Chirac, notamment l'affaire Clairsim. Vous connaissez tous les deux très bien, vous connaissiez maintenant, il faut parler à l'imparfait, Jacques Chirac. Patrice Duhamel, vous avez eu l'occasion, j'imagine, de l'interroger plein de fois. Quels souvenirs vous gardez, donc, puisqu'on a appris ce matin la mort du président de la République, l'ancien président?
Un homme d'une convivialité absolument incroyable. Quand on était avec lui, on avait l'impression qu'il n'y a que nous qui comptions. Bien que par moments, à titre personnel, comme journaliste, les relations comme d'autres, un petit peu dures et difficiles avec lui. Ensuite, une souplesse dans la tactique politique, dans la stratégie politique, y compris dans les convictions politiques, qui est assez remarquable. Un courage politique, c'est-à-dire de faire des coups, mais plutôt bien sentis, la mairie de Paris, etc., etc. Et en même temps, quelque chose de totalement méconnu ou très peu connu. Et là, je n'ai jamais eu l'occasion de lui en parler, mais on sait que c'est vrai maintenant. C'est-à-dire derrière le rideau, un Jacques Chirac derrière le président ou le premier ministre ou l'homme ou le combattant politique, l'homme qui se passionnait pour l'art africain, l'Asie, qui passait des heures
dans les musées,
les poèmes japonais, etc. Donc très complexe. Mais un parcours, je pense pas, même Mitterrand, j'arrête là, même Mitterrand qui est un personnage romanesque, je pense pas qu'on puisse comparer son parcours à celui de Jacques Chirac, parce qu'il y a tellement de choses à dire, en 68, etc.
Oui, mais la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, en l'occurrence pour le président Jacques Chirac, on voit qu'il a tout connu. Jacques Santamaria, alors vous, c'est presque l'aspect corrézien, parce que vous avez un lien presque familial avec Jacques Chirac. D'abord, vous êtes de Corrèze. Souvenir, d'abord, souvenir.
Alors, c'est j'ai une belle famille corrézienne qui a bien connu Jacques Chirac, et ce qui m'a permis de le connaître, et de le connaître au travers de ses rapports avec les gens. Alors, je vais vous employer un mot que vous allez peut-être juger un petit peu innocent, un petit peu tendre, mais Chirac était quelqu'un d'extraordinairement gentil. Il était gentil et il aimait réellement les gens. Il avait un contact, on va dire, tellement facile peut-être, mais qui était sincère. Il allait vers les gens et ce n'était pas un calcul de communicant. C'était véritablement sincère. Moi, c'est ce qui m'a frappé, mais j'avais compris, pour l'avoir vu à l'œuvre, dans le sillage de Georges Pompidou, notamment en 1972, à quel point il prenait exemple sur ce modèle qu'était Pompidou, qui lui aussi avait cette sincérité envers les gens.
Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il a quand même, je veux dire, il a eu la peau de pas mal de gens, hein, de gens proches,
oui.
Baladur, même Giscard d'une certaine manière, parce qu'il a quand même coulé Giscard à la fin. Donc, il était un gentil avec les Français. Enfin, c'était aussi un sort politique.
Il a fait payer
Alain Juppé, qui a payé tout ce qui s'est passé à la mairie de Paris.
Avec les gens.
Oui.
Mais autrement, c'est la première phrase de notre livre. Il faut quand même rappeler que ce que disait Raymond Aron, en aucun pays, la politique n'a jamais été jouée par des enfants de cœur.
Forcément, oui.
Voilà. Non, mais quand je disais combattant politique, la liste de ses adversaires politiques, y compris dans son propre camp, elle est longue. Il y a eu Chaban, puisqu'il a choisi Giscard en 74, alors qu'il était gaulliste. Enfin, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense qu'il était plus pompidolien que gaulliste.
Oui.
Donc Chaban, Giscard, Balladur, au couteau, Sarkozy. Alors, Juppé, c'est différent. On peut pas dire que c'est à l'adversaire, parce que c'était.
Ah non,
c'était
pas du tout. Mais je veux dire, il l'a laissé porter le chapeau.
Le seul vrai héritier de Chirac, c'est dans la tête de Jacques Chirac, c'était évidemment Alain Juppé. Et s'il n'avait pas eu son problème judiciaire, mais à la mairie de Paris.
C'est ce que je dis. Voilà.
Et donc,
absolument.
Il a porté un très large chapeau, Alain Juppé.
Oui.
Mais il y a ce qu'il faudrait. On n'a pas le temps là, mais ce sont des scènes qui font Jacques Chirac. Je parlais du courage tout à l'heure en 68. On a travaillé, nous, sur 68. Moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps un documentaire sur 68. En 68, il est secrétaire d'État de Georges Pompidou, chargé des affaires sociales. Il va travailler un peu dans l'ombre pour les négociations de Grenelle. Mais avant Grenelle, Pompidou lui dit... Tu vas essayer de convaincre la CGT qu'ils doivent venir, parce que c'est la grève générale. Il y a 10 millions de grévistes en France. Hein. Et il prend un rendez-vous secret avec non pas le numéro 1, mais le numéro 2 ou 3 de la CGT qui s'appelait Henri Krasucki. Ils vont se voir dans une petite chambre au dernier étage d'un immeuble pourri à Pigalle. Et il y va seul avec un revolver dans la ceinture.
Ouais, ça, c'est...
Chirac, secrétaire d'État, ouais. Membre du gouvernement. Ce sont des scènes comme ça qui font.
Et son 1m90, hein, aussi.
Voilà.
Qui jouait, il avait une stature.
Et Jacques pourrait en parler mieux que moi, mais et on en parle dans le chapitre du bouquin sur l'affaire Markovitch. Il était d'une dévotion. Je pense qu'on pourrait parler de dévotion pour Pompidou.
Ah oui, ouais. C'était au-delà de l'admiration. Il m'avait dit quelque chose qui m'avait touché. C'était en 94, lors du 20e anniversaire de la mort de Georges Pompidou. Il m'avait dit, finalement, Pompidou, ça a été mon repère, en deux mots.
Oui, parce qu'il n'avait pas d'ailleurs de très bonnes relations avec son père.
Il n'avait pas eu de
dévotion pour sa mère.
Difficile.
Dévotion pour sa mère, mais difficile avec son père.
Mais avec Pompidou, il avait trouvé son repère et il était très amusé parce que Pompidou lui avait permis d'accéder à un poste au gouvernement et il avait toujours en mémoire ce que Pompidou lui avait dit. Chirac, je vous ai trouvé un poste de secrétaire d'État, ne vous prenez pas pour un ministre. Ça l'avait beaucoup amusé.
Et Pompidou avait eu plusieurs phrases sur Chirac, sur son dynamisme et sa fidélité, sa loyauté. Une fois, il avait dit, si je lui demandais de creuser, quand Chirac était ministre de l'Intérieur, si je lui demandais de creuser un souterrain entre la place Beauvau et l'Élysée, il le ferait en une journée.
Oui, il l'aurait fait.
Oui, puis voilà. Il y a les accords de Matignon aussi, où là, il a joué un rôle. L'accord de Grenelle.
Les deux qui ont joué un rôle avec Pompidou, c'était Balladur et Chirac.
C'était un animal politique.
Mais sur l'affaire Markovitch, qui est une des 10 affaires
dont vous parlez. On va revenir sur l'affaire Markovitch, parce que dans votre livre, c'est ça. Il y a 10 affaires que vous racontez. Et l'affaire Ben Barka, il y a l'affaire des diamants, il y a l'affaire Clearstream, là aussi, l'affaire Baudis. Là, Jacques Chirac a joué un rôle. Juste un point, alors on ne va pas s'attarder trop, mais on dit beaucoup en ce moment, c'est l'acte 2 du gouvernement d'Emmanuel Macron après les Gilets jaunes. Et qui fait presque du Chirac 3, c'est-à-dire que on fait pas grand-chose en attendant l'élection présidentielle. Il y a quand même aussi ce côté-là, et c'est peut-être pour ça qu'il tient sa popularité, du fait de ne pas avoir réformé beaucoup la France. Qu'est-ce qui répond là-dessus?
Alors, la comparaison entre Macron et Jacques Chirac, je pense qu'elle serait politiquement un peu osée, parce que c'est pas du tout les mêmes caractères. En même temps, l'idée qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu une société française qui est en permanence en ébullition au bord de la révolte, Chirac l'avait en tête en permanence pendant les 12 ans de sa présidence, et Macron l'a depuis l'affaire des Gilets jaunes. Ouais. Donc il y a ce point commun, mais dont on pourrait dire que c'est le point commun un peu tous les présidents de la Ve République.
Oui, quand il y a une élection en ligne de mire, en plus.
Sarkozy aussi, il avait très peur de mouvements dans la rue, etc.
Alors, vous publiez ce livre aux éditions de l'Observatoire, La République abîmée. Pourquoi revenir sur ces 10 grandes affaires? Très intéressant, parce qu'on les revit, même si vous ne prononcez pas trop, parce qu'il y a même l'affaire Fillon, la dernière affaire Fillon. Qu'est-ce que vous avez cherché à démontrer à travers ces scandales de la République française?
Ces machinations.
Ou ces machinations.
Parce qu'il y a des faux scandales.
C'est surtout, oui, bien sûr.
Oui, ce qu'il y a, c'est que...
Essentiellement des faux.
Ce qui nous a intéressé, c'est en fait, ce sont des histoires humaines. Au-delà des affaires, des faits divers, plus ou moins sordides, ce sont des histoires humaines. Ce sont des personnages et la manière dont ces personnages créent des situations, j'allais dire presque romanesques, mais qui peuvent aller du plus noir au plus léger. Et comment la nature humaine, dans ce genre de situation, arrive à sécréter des machinations, la corruption, la haine, voire le crime.
Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu de votre livre, parce que j'ai vraiment lu, je trouve ça intéressant, même si j'aurais presque voulu en plus d'où vous parlez, qu'il y ait un peu plus de, comment dire, de vous, votre pensée personnelle. Parce que là, on voit que la République française, elle est faite de machinations, vraiment, y compris machinations contre la vie privée des gens. On parle évidemment à l'affaire Markovitch avec Claude Pompidou, qui était, on disait qu'elle participait à des choses. C'est les réseaux, la police, les réseaux politiques. Quand on ferme votre livre, on se dit, drôle de République française.
Oui, mais c'est la vérité.
Oui.
Et ça prouve aussi, d'une certaine manière, que quand il y a la fébrilité, pour ne pas dire plus ou pire sur des affaires aujourd'hui qui ont, sont d'une importance. Je veux dire, vous parliez de l'affaire Ben Barka, je préfère des comparaisons stupides, mais enfin, franchement, entre l'affaire Ben Barka et l'affaire de Rugy, il y a
ah oui,
c'est
non,
pas un monde.
Alors on est là, voilà. Nous on est un monde des bisounours donc, hein, donc, aujourd'hui dire, par rapport à tout ce que
voilà,
vous racontez.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça remonte au non pas au début de la Ve République, mais au moment où Général de Gaulle. La première affaire dont on parle, Ben Barka, 65, il a 75 ans, il commence à être un peu usé, fatigué. Il a des adversaires parce qu'il a accordé l'indépendance à l'Algérie.
C'est des machinations qui sont faites par les concurrents, quoi. Je veux dire, par le.
Oui, non, mais il y a toujours la même chose qui court tout au long des affaires. Ouais. C'est quoi ? Le dénominateur commun, c'est le pouvoir, la conquête du pouvoir et l'argent. Et parfois les deux.
Enfin, le pouvoir. Le pouvoir, essentiellement le pouvoir.
Tous les moyens sont bons. Ouais. Tous les moyens sont bons, même les plus criminels, pour conquérir le pouvoir, au travers d'affaires ou de machinations insensées. Ouais. Alors, il est évident qu'il y a des comparaisons qu'on ne peut pas faire avec aujourd'hui. Ben Barka ou même Markovitch, je veux dire, ça, on va pas le comparer avec le homard de François de Rugy. Non. Ça tient pas debout.
Non, mais je continue parce que moi, c'est l'affaire de Robert Boulin. Du reste, vous vous mouillez pas trop. Hein.
Non,
vous dites qu'il y en a qui disent que, il y en a d'autres qui disent le suicide, l'autre qui l'a été tué.
On peut pas se mouiller d'abord parce que même
donc,
si ça fait 40
là, quand même.
Ans. Si, ça
bien
fait
sûr.
40
mort
ans
d'un ministre.
Cette année.
40 ans dans quelques jours.
Dans quelques jours, fin octobre, que cette affaire a eu lieu, elle est toujours devant la justice. Il y a encore aujourd'hui deux juges d'instruction
qui sont
chargés de travailler sur cette affaire. Voilà. Donc, nous, on a fait un état des lieux.
D'accord.
Mais c'est pas à nous de dire Robert Boulin, il lui est arrivé ceci ou cela.
Il y a eu une autre ligne directrice dans ces affaires, parce que effectivement le choix est totalement subjectif.
Les
affaires, il y en a eu 50, donc il fallait en choisir. On avait envie d'en choisir 10. C'est le mystère. Elles ont toutes un caractère mystérieux.
Même celles qui sont résolues.
Même celles résolues. Vous voyez, Fillon, le procès n'a pas eu lieu, mais pour moi, le mystère. C'est comment la droite a été absolument incapable de se réunir, de se regrouper, sachant qu'ils allaient dans le mur de manière évidente, et de dire à François Fillon, là c'est pas possible, tu te retires.
Et puis qui a sorti l'histoire des costumes, enfin qui a poussé à sortir l'histoire des costumes.
Mais vous parliez de Boulin.
Oui.
Moi je l'ai très bien connu, Robert Boulin. J'ai fait une grande émission de radio, le Club de la Presse d'Europe 1 à l'époque.
Qui est la dernière émission qu'il ait faite.
Avec Robert Boulin, 10 jours avant sa mort. Ouais. Au début, comme son fils, et on révèle dans ce livre la lettre qu'il a adressée à Giscard quelques jours après la mort de son père, et où il croyait totalement au suicide, où il explique pourquoi son père s'est suicidé. Pour moi, après avoir vu Boulin ce jour-là, j'étais à peu près sûr que c'était suicidé. Et pendant des années, je l'ai cru. Et puis là, maintenant, on voit tellement de choses, tellement de bizarreries, une autopsie bâclée,
une accumulation de dysfonctionnements,
du sac.
C'est vrai qu'on a un grand doute.
Oui. Au nom de quoi pourrait-on dire aujourd'hui c'est ça ou c'est ça? C'est pour ça qu'on pose la question.
Je vous propose on va écouter le témoignage de Jean Arthuis, qui a été ministre des Finances de Jacques Chirac et qui est avec nous. Jean Arthuis, bonjour. Là encore, première question, d'abord première réaction par rapport à la mort de l'ancien président de la République, et surtout un peu quel est le témoignage un peu plus personnel que vous aimeriez mettre en avant?
C'est à la fois la lucidité et le courage. Il savait résister. On se souvient des positions prises sous son autorité à l'occasion de la décision américaine de passer à l'attaque en Irak. C'était aussi... dans sa lucidité, cet homme attaché à notre modèle social, à la cohésion sociale, qui avait discerné avant l'heure, si j'ose dire, les atteintes et la fracture sociale qui nous menaçait du fait de la globalisation. Il a tout mis en œuvre pour essayer de prévenir ces menaces. C'est aussi l'homme qui a eu le courage d'accepter que le franc fasse place à la monnaie unique, une décision difficile à prendre dans le contexte du mois d'octobre 1995.
C'était pas vraiment un homme de chiffres, je veux dire un homme budgétaire, entre guillemets, Jacques Chirac. Quel rapport vous aviez avec lui quand vous arriviez en Conseil des ministres en lui disant, tiens, donnez, monsieur le Président, voilà ce qu'il faudrait faire?
Je Vous savez, les chiffres et la réalité budgétaire en politique sont souvent dans l'opposition. Et donc, moi, je me suis efforcé d'apporter la clarté, notamment sur la situation des finances publiques. Il faut bien voir que nous voulions passer à l'euro. Oui. Et à l'époque, en 1995, le déficit de la France était voisin de 6%. Donc, oui, c'était un exercice extrêmement difficile. Il avait une vision politique, il savait exprimer une volonté politique. Il fallait ensuite mettre les actes en conformité avec le discours.
Merci beaucoup, Jean Arthuis. J'en profite pour dire que le président Emmanuel Macron n'est pas allé à Rodez du coup pour ce discours, pour ce grand débat qu'il voulait faire autour des retraites et qu'il prononcera une allocution ce soir à 20h. Il s'adressera aux Français. Patrice Demel, vous me disiez en souriant, c'est vrai qu'il était à la Cour des comptes.
À propos des chiffres, oui, c'est ça.
À propos des chiffres, enfin,
oui.
Reconnaissez que les chiffres, c'était pas vraiment le cas. Ce qu'il préoccupait, c'était avant tout un politique.
Moi, je pense que dans tout ce qu'on va entendre, tout ce qu'on va voir dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, parce que c'est un personnage qui va rester dans la mémoire non seulement politique mais collective des Français. De mon point de vue, les deux choses marquantes, on n'en a pas parlé avec Jacques depuis tout à l'heure, mais il a peut-être d'autres idées en tête. Oui. Pour moi, c'est le discours du Veldiv, exceptionnel. Juillet 95, le premier discours de président de la République, le premier président de la République qui dit voilà quelle est la responsabilité de la France, de l'État français et de la France et de la police française lors de la rafle du Veldiv de juillet.
Responsabilité
42.
De l'État français.
Responsabilité de
ça.
L'État français.
Voilà, c'est ça qui était important.
Aucun de ses prédécesseurs n'avait tenu ses propos et depuis, tous ses successeurs ont tenu les mêmes propos de manière plus ou moins forte. Et la deuxième chose, Jean Arthuis faisait référence, c'est le non aux États-Unis au moment de la deuxième guerre déclenchée par Bush en Irak. Je pense que c'est les deux moments, de mon point de vue, les deux moments forts. On pourrait dire la fin du service national, etc. Beaucoup de choses. Mais moi, je pense
que
l'euro, mais il y avait Mitterrand qui avait mis l'euro et le rôle de Giscard aussi.
Jacques Santamaria, vous, qu'est-ce que vous retenez rapidement?
Oui, enfin, je suis absolument d'accord avec Patrice, donc je vais pas redire la même chose. Mais je voudrais revenir 10 secondes sur ce que vous disiez tout à l'heure, puisque nous traitons dans ce livre de l'affaire Clearstream. Et l'affaire Clearstream, c'est quoi? C'est, je le rappelle, c'est la rivalité épouvantable entre Sarkozy et Villepin.
Oui.
Chirac en a été terriblement affecté. Et vous avez rappelé tout à l'heure son AVC de 2005, qui a peut-être été la conclusion tragique et dramatique, personnellement pour lui, de cette affaire. Et simplement pour dire encore une fois à quel point cet homme, même s'il était un animal politique qui pouvait ne pas faire de cadeaux, c'est ça la politique.
Sinon, il n'aurait pas été président de la République.
Était quelqu'un de sensible.
Ouais, ouais. Merci beaucoup. Et ça, moi, j'ai des témoignages aussi personnels sur la sensibilité, notamment avec ses filles du président Jacques Chirac. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle quand même votre livre parce qu'on apprend plein de choses. Moi, je trouve que sur toutes les affaires qui nous ont marqué, La République abîmée, c'est donc aux éditions de l'Observatoire. Merci Patrice Duhamel. Merci Jacques Santamaria. Et en plus de vos témoignages. Voilà, c'est la fin de l'orage. Surtout, restez sur BFM Business. Je vous rappelle l'information principale, la mort du président Jacques Chirac et puis l'allocution ce soir du président Emmanuel Macron, allocution qui aura lieu à 20h. Bonne journée.